Une petite anecdote dont l'intérêt est sans doute limité, mais qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps et qui constitue une bonne introduction au sujet de cette conférence. Certains d'entre vous le savent peut-être, il existe dans le système universitaire français un concours particulièrement prestigieux qu'on appelle l'agrégation. Les apprentis historiens le passent généralement à l'âge de 22 ou 23 ans. Il sanctionne l'excellence des études d'histoire entreprises depuis la sortie du lycée et on convient généralement que les quelques dizaines de candidats qui parviennent à obtenir cette agrégation chaque année constituent le vivier duquel émergeront les historiens futurs. C'est d'ailleurs assez curieux, dans la mesure où ce concours permet d'abord d'exercer dans l'enseignement secondaire. Seul le doctorat, par la suite, permet d'accéder au statut d'universitaire d'enseignant-chercheur, mais c'est ainsi, dans le système français, la première étape pour devenir un historien consiste à passer un concours très difficile visant à sélectionner non pas des chercheurs, mais des professeurs de collège et de lycée. C'est curieux, mais ce n'est pas aberrant. De fait, on peut aussi considérer le concours de l'agrégation comme un moyen de consolider le pont qui unit ceux qui ont pour métier de produire de la connaissance historique, les chercheurs, et ceux qui ont pour métier d'enseigner cette connaissance, les professeurs. Quoi qu'il en soit, l'agrégation est dans le système français un sésame, nécessaire mais non suffisant, pour entrer dans la carrière universitaire. Ceux qui obtiennent ce sésame en sont particulièrement heureux. Ils sont considérés comme des historiens en puissance, même s'ils doivent concrétiser les espoirs qu'on a placés en eux en soutenant, quelques années après l'agrégation, leur thèse de doctorat. Et s'ils sont considérés comme des historiens en puissance, c'est d'une part parce qu'ils ont été sélectionnés par un jury constitué par des historiens professionnels, historiens qui ont eux-mêmes victorieusement franchi dans leur jeunesse l'obstacle de l'agrégation. Et c'est d'autre part parce que les épreuves du concours de l'agrégation se présentent comme des exercices en théorie très proches de la réalité du métier d'historien. C'est tout particulièrement le cas de l'épreuve d'explication de texte. Rappelons que depuis le début des années 1970, il est d'usage au concours de l'agrégation de diviser la matière historique en quatre époques, ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, et de faire travailler les candidats sur un programme thématique par époque. L'épreuve d'explication de texte consiste ainsi à proposer aux candidats un document, généralement un texte, que ceux-ci doivent expliquer en 7 heures à l'aide des connaissances qu'ils ont accumulées pendant leur année de préparation sur le programme thématique concernant l'une des époques. On considère volontiers que cet exercice est le plus proche de la pratique professionnelle des historiens dans la mesure où, en histoire, la production de connaissances se fait de la même façon par l'analyse des traces, le plus souvent écrites, que nous ont laissées les hommes et les femmes d'autrefois. On pourrait pourtant critiquer cette conception des choses. En effet, dans l'exercice du métier d'historien, le travail d'analyse des documents n'a de sens que par la mise en série de ces documents. C'est cette mise en série seule qui permet de produire de la connaissance. L'épreuve d'explication de texte, de ce point de vue, est très loin de correspondre à la pratique professionnelle des historiens. Disons-le, elle est d'abord un exercice rhétorique. Il n'empêche que par le contact qu'elle est censée procurer avec les documents du passé, l'épreuve d'explication de texte bénéficie d'une aura supérieure aux autres épreuves, lesquelles sont des dissertations que, de fait, l'agrégation d'histoire partage avec beaucoup d'autres concours. Ces considérations d'ordre général sont nécessaires pour comprendre tout l'intérêt de l'anecdote que je vous annonçais en commençant. Car à la session 2011 du concours de l'agrégation d'histoire, le jury a commis une erreur d'autant plus remarquable qu'elle concernait précisément l'épreuve d'explication de texte. En 2011, le programme thématique pour l'époque médiévale était les structures de l'Église dans l'Occident latin du XIIe au XVe siècle. Dans ce cadre, le document proposé à l'épreuve d'explication de texte portait sur le Concile de Constance de 1415. C'était un texte présenté comme un extrait du journal d'un témoin du Concile, à savoir Jacques de Cerisy, lequel avait été, à Constance, le secrétaire du célèbre Jean Gerson. Or, voici. Si Jacques de Cerisy a bien existé, s'il a bien été le secrétaire de Jean Gerson et s'il a bien participé au Concile de Constance, il ne nous a laissé, en revanche, aucun journal. En réalité, le pseudo-journal de Jacques de Cerisy a été rédigé très longtemps après les faits, en 1964, par un spécialiste de l'histoire de l'Église, lui-même ecclésiastique, Monseigneur Palémon Glorieux. Ce Palémon Glorieux avait rédigé son faux journal dans une perspective apologétique. Il voulait en effet célébrer dans le Concile de Constance le premier mouvement de l'Église en direction d'un autre concile auquel Monseigneur Glorieux lui-même avait participé, c'est-à-dire le Concile de Vatican II. Mais peu importe ici les raisons qui ont poussé Monseigneur Glorieux à produire en 1964 un pastiche faussement daté de 1415. Ce qui est intéressant, c'est que Palais-Mont-Glorieux n'a pas cherché à faire croire que le pseudo-journal de Jacques de Cerisy était un document d'époque. Palais-Mont-Glorieux avait certes rassemblé d'authentiques sources du XVe siècle et il les avait mises en forme sous l'aspect d'un faux journal, mais dès le début de son livre, il indiquait la supercherie et précisait nettement à son lecteur que le journal de Jacques de Cerisy était, disons, une fiction. Je ne développerai pas ici toutes les implications de cette affaire, qui est peut-être anecdotique dans ses conséquences, mais qu'il est possible de considérer en elle-même comme un instructif accident épistémologique. Dans un petit livre récemment paru, donc que je vous ai fait passer, le médiéviste Patrick Boucheron et moi-même avons tenté de prendre la mesure des différents enjeux en termes de connaissances historiques de cette affaire. Je ne le referai pas ici. Mais je voudrais m'attarder sur un de ces aspects qui concerne le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Chaque année, le jury du concours de l'agrégation est en effet contraint de publier, quelques mois après que les épreuves ont eu lieu, un rapport. Dans ce rapport, le jury propose les corrigés des épreuves auxquelles il a soumis les candidats. Pour l'épreuve d'explication de texte, il doit ainsi, selon la logique même de l'épreuve, expliquer la nature du texte proposé aux candidats, ainsi que les problématiques liées à la date de publication de ce texte et à son auteur. En 2011, vous le comprendrez, c'était délicat. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le libellé de l'épreuve, le texte n'était pas l'extrait d'un journal, mais du pastiche d'un journal. Il ne datait pas de 1415, mais de 1964. Et son auteur n'était pas Jacques de Cerisy, mais Palais-Mont-Glorieux. Et pourtant, comme le notaient les membres du jury, le texte avait bien été produit à partir de sources datant du début du XVe siècle. Et surtout, à leurs yeux, il permettait parfaitement de se livrer à l'exercice, en grande partie rhétorique, je l'ai dit, de l'explication de texte. Pour présenter ce texte, sa date de publication et son auteur, le rapport du jury a donc choisi de parler, je cite, d'un pseudo-journal du Concile de Constance, assemblage de sources contemporaines des faits effectués librement par un érudit du XXe siècle. Le rapport soulignait également que le texte concernait l'année 1415 et que son auteur présumé était le secrétaire de Jean Gerson, Jacques de Cerisy. Surtout, le rapport apportait la précision suivante, que je cite, « Ce journal aurait pu être tenu en vue de l'informer, Jean Gerson, avant son arrivée à Constance, le 21 février, en tenant compte de ses opinions et de ses préoccupations. » C'est évidemment la formule « ce journal aurait pu être tenu » qui doit retenir notre attention. Elle intrigue. Elle invite à réfléchir aux usages du mode conditionnel dans l'écriture historique. Que signifie, en effet, l'emploi du conditionnel en histoire ? Peut-on vraiment dire d'un texte écrit en 1964 qu'il aurait pu être écrit en 1415 ? Est-ce que l'utilisation du conditionnel dans l'écriture historique ne soulève pas de graves questions ? Imaginez un instant ce que l'emploi du conditionnel aurait de scandaleux si on l'appliquait, par hypothèse, à l'histoire du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chambres à gaz auraient pu avoir été construites, etc. Ce sont ces interrogations et d'autres qui nous ont conduit, Patrick Boucheron et moi-même, à intituler le petit livre que nous avons tiré de cette affaire « L'histoire au conditionnel ». Bien sûr, il n'est pas question de bannir le mode conditionnel de l'écriture historique. Au contraire, on pourrait défendre l'idée que l'opération historiographique consiste bien souvent à échafauder des hypothèses sur le passé et que pour mettre en forme ces hypothèses, le conditionnel s'impose. D'ailleurs, certains ont même avancé l'idée que le conditionnel est peut-être le mode verbal qui convient le mieux à l'écriture historique. Comme l'écrit le philosophe Jacques Rancière dans « Les noms de l'histoire », la citation est un peu longue et elle est très compliquée, « Placé sous le signe de l'inimitable, le contenu de la narration en reçoit la marque du vrai, reçoit du conditionnel la marque du vrai. Le sujet qu'on ne peut imiter devient le garant du vrai, témoin de ce qu'une parole a eu lieu. Un sens s'est exprimé, mué désormais, à faire parler à nouveau dans un discours radicalement autre que celui de la mimesis. L'impossibilité de l'imitation produit le témoin muet, qui détient la vérité de la science, qui la détient sans pouvoir la délivrer lui-même. La figure de celle qui parlerait au conditionnel, l'instance légitimante de la narration, devient celle du témoin muet, l'instance légitimante du savoir. » Alors je reviendrai un peu plus loin sur cet extrait compliqué et sur les raisons qui poussent Jacques Rancière à défendre l'utilisation du conditionnel dans l'écriture historique. Disons tout de suite que ces raisons ne relèvent pas d'une sorte de défi postmoderne jeté à la discipline historique. Rancière ne postule pas que les historiens sont incapables de restituer la réalité des faits passés. Il s'agit d'autre chose. Et pour l'instant, je voudrais me borner à saisir l'occasion donnée par la controverse liée à la petite affaire de la session 2011 de l'agrégation d'histoire pour essayer de réfléchir aux enjeux que recouvre la question de savoir à quel mode et à quel temps on écrit l'histoire. Cette question, il faut le reconnaître, ne passionne pas vraiment les chercheurs. En tout cas, pas directement. Alors que beaucoup de choses ont été écrites sur les problèmes posés par le récit dans l'écriture historique, les historiens français ne se sont guère souciés d'éclaircir la question de savoir à quel temps on écrit l'histoire. De Paul Veyne à Antoine Prot et à Philippe Carrard, le problème a été le plus souvent évacué. C'est un peu étonnant, surtout si on pense qu'une des émissions radiophoniques d'histoire les plus populaires de France s'intitule précisément « Concordance des temps ». Au nombre des réflexions sur le sujet, on ne peut guère compter qu'un chapitre du livre intitulé « Les historiens et le temps », écrit par un ancien professeur de Cagnes, Jean Leduc, ainsi que quelques pages dans le livre de Jacques Rancière, déjà cité, « Les noms de l'histoire ». Soit, pour nous aider à réfléchir à cette question qui devrait intéresser les historiens au premier chef, un enseignant et un philosophe. Ce sont donc leurs réflexions que vous avez pu lire normalement sur le site de la CASA, que je vais essayer ici de commenter en historien, c'est-à-dire en praticien de l'écriture historique. Et d'abord, comment expliquer ce désintérêt de la part des historiens et des historiographes? Peut-être parce qu'a priori, les choses sont assez simples. Il n'y a qu'à constater ainsi, avec Jean Leduc, les conseils que les professeurs donnent à leurs élèves pour réussir leur dissertation ou leurs explications de texte. Ces conseils pédagogiques se retrouvent dans les pages des manuels destinés aux élèves de lycée ou aux étudiants du premier cycle universitaire. Les auteurs de ces manuels ressassent que deux temps seulement sont autorisés pour écrire l'histoire, le passé et un certain présent que, selon les auteurs, on qualifie de présent narratif ou présent de narration, ou encore de façon plus significative peut-être, présent historique. Dans l'ensemble, cela dit, l'idéal est plutôt d'écrire au passé. En effet, comme le prescrivent les auteurs d'un manuel intitulé « La dissertation en histoire », je cite, « Le temps naturel du récit historique dans le passé est le passé simple. » Même si on ne voit pas très bien en quoi cela est naturel, on conçoit la logique d'un tel jugement. Les événements s'étant produits dans le passé, c'est au passé qui semble cohérent de les raconter. Mais en même temps, si on suit bien ce qu'écrivent les auteurs de tous ces manuels, écrire au passé semble souvent plus compliqué qu'écrire au présent. Pour deux raisons. D'une part, l'historien doit respecter les contraignantes règles de la concordance des temps, qui lui imposent alors l'utilisation du plus que parfait et du subjonctif passé, qui sont assez complexes à manier. D'autre part, et surtout, il doit jongler avec les différents temps qui permettent de conjuguer au passé. L'imparfait, le passé composé et le passé simple, là où le seul présent suffit pour écrire au présent. Du strict point de vue des règles de conjugaison, donc, l'écriture au passé exige un savoir-faire technique qui tend à diriger les élèves les moins à l'aise vers l'utilisation du présent, considéré comme plus facile. L'utilisation du présent implique néanmoins d'éviter un piège particulier posé par les rigoureuses règles de la concordance des temps. Une phrase écrite au présent de narration risque en effet de conduire son auteur, pour respecter ses règles, à une proposition contenant un verbe au futur, si l'action décrite dans la proposition s'est effectivement produite après celle décrite dans le reste de la phrase. Or, sur ce point, les normes diffusées par les auteurs de manuels sont strictes. Tous le répètent. Quand on écrit l'histoire, on n'emploie pas le futur. Les auteurs d'un manuel destiné aux élèves de première rappellent ainsi leur lecteur à un ordre évident pour eux. Je cite « faire preuve de rigueur en évitant le futur pour raconter le passé ». Les auteurs d'une méthode pour le commentaire et la dissertation historique destinée aux étudiants de premier cycle universitaire sont encore plus tranchants. Je les cite « n'employez pas le futur » qui n'est par définition pas un temps historique. L'historien n'est pas un prophète. Pour bien mesurer la justesse de cette prescription, il faudrait bien sûr définir avec assez de précision ce qu'est un prophète. Il est sûr en tout cas qu'à en croire tous ces textes, les historiens n'ont le choix qu'entre deux possibilités pour écrire l'histoire. Le passé, qui est la solution idéale, naturelle, comme dit l'un d'entre eux, mais qui implique d'être à l'aise avec les utilisations des différents temps du passé. Et le présent, qui est peut-être d'une utilisation plus facile, mais à condition d'éviter absolument de construire une phrase dans laquelle, du fait des règles de la concordance des temps, l'auteur serait conduit à utiliser le futur et donc à revendiquer l'identité, a priori déshonorante pour la profession, de prophète. Quant au mode conditionnel, utilisé dans le rapport du jury du concours de l'agrégation en 2011 et dont l'usage est préconisé par Jacques Rancière, il n'en est même pas question. Le problème de savoir à quel temps on écrit l'histoire semble donc résolu en théorie et depuis longtemps. Pourtant, ainsi qu'il est très facile de le montrer, dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées que ça. D'abord, il est possible de repérer une évolution chez les historiens français tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. D'après les observations de Jean Leduc, les historiens auraient de plus en plus privilégié l'emploi du présent au détriment du passé. Si donc le passé est le temps naturel du récit historique, alors force est de constater que depuis une cinquantaine d'années, l'art d'écrire l'histoire en France s'est progressivement éloigné de l'imitation de la nature. Il convient néanmoins, pour nuancer l'analyse de Jean Leduc, de rapporter ces observations qui ne concernent que l'écriture des historiens à des tendances plus générales de l'écriture en langue française. Considérez ainsi cette pratique récente des éditeurs par laquelle ils multiplient les rééditions réécrites au présent de classiques de la littérature enfantine que leurs auteurs avaient pourtant naguère rédigés au passé. Ceux qui parmi vous ont lu les aventures du Club des Cinq dans les années 1970, par exemple, seraient bien étonnés de confronter leurs vieux livres aux rééditions actuelles. Disparu l'imparfait, disparu le passé simple, ou plus exactement réduit aux strictes règles de la concordance des temps avec le présent, lequel est devenu désormais le temps fondamental de tous ces récits. Et à cela, les éditeurs invoquent une raison majeure. Les enfants d'aujourd'hui peineraient à lire des récits rédigés au passé, et tout particulièrement au passé simple. Ces lamentations incriminent généralement la télévision, dont les enfants préféreraient la consommation paresseuse aux fatigues de la lecture. Bien sûr, on connaît ce discours, qui a lui-même une histoire, laquelle s'enracine dans l'avènement de l'illustration par la grâce de la lithographie et de la gravure sur bois debout au début du XIXe siècle. Il est très difficile d'en mesurer l'exacte vérité. Mais sur un point, il dit peut-être vrai. Car la diffusion de l'audiovisuel a eu pour la langue française une connaissance que ne connaissent pas d'autres langues, comme l'italien ou, à ce qu'on me dit, l'espagnol. En effet, dans la mesure où le passé simple est en français un temps de l'écrit seulement, il est condamné par le discours audiovisuel. On ne parle pas au passé simple. Tous les conférenciers le savent, au moment où ils rédigent le texte de leur conférence, même s'il s'agit d'une conférence historique. Le passé simple est peut-être le temps naturel du récit historique au passé, comme le disent les auteurs du manuel intitulé « La dissertation en histoire », mais c'est vrai seulement à l'écrit. Et pour revenir à mon sujet, si les historiens français se sont mis, dans la seconde moitié du XXe siècle, à écrire de plus en plus souvent au présent, c'est peut-être moins sous l'influence de contraintes internes à la discipline historique que sous l'effet d'un recul plus général de l'usage du passé simple dans la société française. L'essentiel toutefois n'est pas dans cette évolution, qui semble faire préférer depuis quelques décennies l'un des deux temps prescrits pour écrire l'histoire plutôt que l'autre. L'essentiel pour mon propos me paraît résider dans le fait que les historiens semblent peiner à s'appliquer à eux-mêmes les règles auxquelles leurs élèves devraient se plier. Il en va ainsi du choix auquel est censé se résoudre tout auteur d'un texte historique. Les manuels sont assez clairs sur cette question. Comme l'écrivent les auteurs de « La dissertation en histoire », je cite, « Naturellement, il ne faut pas changer de temps au hasard dans le cours du devoir, ou du moins dans le cours du développement. » Jean Leduc, qui rapporte cette prescription, s'est amusé à examiner ce qu'il en était dès lors que l'on n'avait plus affaire à une dissertation, mais à un livre entier. Or, le résultat de son enquête est édifiant. De nombreux historiens n'hésitent pas à aller du présent au passé et du passé au présent à l'intérieur du même livre. Et ce n'est pas parce que ces auteurs maîtriseraient plus mal que d'autres l'art d'écrire. Au nombre des historiens ainsi identifiés par Jean Leduc, on compte en effet Lucien Febvre, Claude Nicolet ou Jacques Le Goff, c'est-à-dire des auteurs dont il serait difficile de prétendre que leur style n'est pas le fruit d'un savant travail. Plus remarquable encore, il est également possible de prendre à peu près tous les historiens professionnels en flagrant délit de contravention à la règle la plus énergiquement répétée par les manuels, c'est-à-dire ne pas écrire au futur. J'ouvre le tome 2 de la célèbre Histoire des femmes, dirigée par Georges Dupuy et Michel Perrault. De qui cette phrase scandaleuse à la page 202, je cite. « Au XVe siècle, les femmes ne se contenteront plus de chercher à être exemptées de ces lois ou à s'y soustraire, mais s'en prendront énergiquement au principe même du contrôle. » Quel est l'historien qui a cru bon d'employer deux fois le futur dans la même phrase? Quel est ce prophète? Eh bien, Georges Duby lui-même, le grand médiéviste, déjà membre de l'Académie française à ce moment-là, l'un des historiens français à être le plus volontiers reconnu, et sans doute à juste titre, comme un bel écrivain. Inutile de multiplier les exemples de ce type. Chacun devine qu'ils sont innombrables, l'affaire est entendue. Les historiens ne respectent pas scrupuleusement les règles que pourtant ils semblent imposer aux jeunes qui se lancent dans des études d'histoire. La question est pourquoi donc? D'abord parce que l'écriture de l'histoire ne saurait se limiter à celle d'un récit des événements, pour lequel les historiens auraient à choisir entre le passé et le présent. Le propre du discours historique est en effet de balancer entre le récit des événements passés et l'analyse de ces mêmes événements. Pour les auteurs du manuel intitulé « La dissertation en histoire », cela justifie d'ailleurs l'utilisation par les historiens d'un autre présent que le présent de narration, qu'ils appellent le présent de généralité. Je cite « Le temps le plus important de la dissertation historique peut être le présent, qualifiable de présent de généralité par opposition au présent de narration, car il est le temps du regard porté sur une réalité passée qui nous intéresse d'abord à cause de l'analyse que nous sommes en train de faire de cette réalité comme d'un objet intellectuellement présent. » L'écriture de l'histoire serait donc soumise à ce double impératif. D'une part, raconter des événements passés, et pour cela, il convient d'utiliser le passé, ou au pire, le présent de narration. D'autre part, interpréter, analyser ces événements, et pour cela, il convient d'utiliser le présent de généralité. En réalité, on comprend qu'une telle recommandation s'inscrit dans une histoire longue des conceptions de la langue. Elle se borne à appliquer à l'écriture historique la célèbre distinction proposée par le linguiste Émile Benveniste entre le récit et le discours. Comme le rappelle Jacques Rancière, le temps de prédilection du récit est, selon Benveniste, le passé. Et pour Benveniste, le présent dit historique n'est de ce point de vue qu'un artifice de style. Quant au discours, son temps de prédilection est peut-être le présent, mais il peut également être exprimé à tous les temps, le présent, le passé et le futur, pouvant se rapporter à différents moments du discours lui-même. Ainsi, les règles de l'écriture historique se compliquent-elles dès lors que l'on considère que cette écriture n'a pas pour seule fonction de raconter le récit des événements passés, mais aussi d'expliquer ces événements. Et quel que soit le choix fait par l'auteur, passé ou présent de narration, il doit en effet combiner ce choix initial avec son propre discours de commentaire, pour lequel le présent, le passé et le futur sont également légitimes. Or, cela se complique encore de ce que le discours doit lui aussi faire une place à la chronologie. Proposer une interprétation d'un événement distincte de l'interprétation proposée précédemment par un autre historien, implique ainsi d'exposer cette autre interprétation comme un moment dans une histoire qui n'est plus celle des événements, mais celle des commentaires de l'événement. Et de ce point de vue, il n'est pas sûr du tout que le choix du présent de narration pour le récit des événements facilite vraiment la tâche de l'historien. Cela peut le conduire en effet à raconter au présent des événements passés, puis à exposer au passé une interprétation de ces événements antérieure à sa propre interprétation, certes, mais nécessairement postérieure aux événements lui-même. L'affaire, on le voit, est assez complexe. Et on comprend qu'elle conduise à d'importants écarts avec les normes imposées par les auteurs des manuels relatives au temps auquel on doit écrire l'histoire. L'affaire est complexe, mais, et c'est le grand apport du petit livre de Jacques Rancière que d'avoir mis ce fait en évidence, sa complexité est constitutive de la définition même de la discipline historique. En l'occurrence, il faut pardonner à Rancière ses simplifications à propos de l'historiographie libérale des premières décennies du XIXe siècle. Si vous le lisez, vous verrez que Rancière accorde beaucoup trop à Michelet. À l'en croire, Michelet aurait proprement inventé la science historique en même temps que l'écriture de cette science. Et il serait très facile d'objecter à Rancière que Michelet n'était pas le seul et que d'autres que lui, avant lui, ont joué dans cette évolution un rôle au moins aussi important, à commencer par Augustin Thierry. Toutefois, je ne m'arrêterai pas sur ce point, car ce que Rancière identifie bien à travers la figure de Michelet, ce sont les enjeux essentiellement politiques de ce moment libéral de l'historiographie française. Et au fond, ce sont ces enjeux que Rancière appelle Michelet. Or, quels étaient ces enjeux? Pour les historiens de cette époque, ces historiens qu'on a qualifiés un peu vite de romantiques, la révolution dans l'écriture de l'histoire devait nécessairement suivre la révolution dans l'ordre politique. Il s'agissait désormais de faire l'histoire du peuple, l'histoire de ces hommes qui n'avaient pas laissé de traces alors même qu'ils avaient été la nation. La mission que s'assignaient les historiens libéraux était de rendre au peuple cette voie qu'aurait étouffée jusqu'en 1789 l'Église et la monarchie. Rancière a été d'autant plus sensible à cette dimension politique de l'historiographie libérale que d'une certaine façon, lui-même a voulu poursuivre cette mission en faisant connaître le discours du prolétariat, en essayant de faire émerger de leur nuit, comme il dit, des prolétaires dont les mots avaient été rendus semblablement inaudibles par l'écriture bourgeoise de l'histoire. Or, selon Rancière, cette conception politique de la science historique a eu de grandes conséquences sur le choix des temps auxquels on écrit l'histoire. Les historiens soucieux de faire parler ceux qui n'ont pas laissé de traces se trouvaient en effet dans l'impossibilité de raconter les événements passés en se fondant sur les récits des témoins de ces événements. Car les récits de ces témoins, nous dit Rancière, même lorsque leurs auteurs étaient animés d'une volonté de libération du peuple, étaient soumis aux logiques discursives dominantes de leur époque, c'est-à-dire au discours même de leurs oppresseurs. Les historiens qui voulaient restituer au peuple sa propre voix, ces historiens que Rancière appelle Michelet, n'auraient donc pas eu d'autre choix que de raconter non pas les événements eux-mêmes, à partir des récits des témoins, mais le sens de ces événements. Or, cela ne pouvait se faire qu'en brisant le système qui oppose le passé simple du récit au présent du discours. Ainsi, la science moderne se serait fondée, d'après Rancière, au temps de l'historiographie libérale, sur un souci politique qui se serait d'abord manifesté par le brouillage de la frontière que les linguistes établissent entre le récit et le discours. Et là réside la raison qui pousse Rancière à faire du conditionnel le mode verbal privilégié des historiens. En effet, si l'histoire a pour mission de donner la parole à ceux qui n'ont jamais pu la prendre, alors les historiens en sont réduits à écrire ce qui, d'après leurs recherches, aurait pu être dit autrefois par les gens du peuple. Pour autant, comprenons bien que ces historiens n'écriront pas au conditionnel. Mais c'est le conditionnel qui, in fine, conférera sa légitimité à une écriture délivrée de l'impératif de la distinction entre le récit et le discours, une écriture qui désormais pourra faire usage, sans aucune incohérence, de tous les temps possibles. Bien sûr, on peut contester pas mal de points du raisonnement de Jacques Rancière. On peut considérer que les historiens, loin de poursuivre le but romantique de la vengeance des peuples, doivent au contraire tendre vers l'objectivité la plus impartiale. On peut aussi considérer que Rancière étayait son raisonnement par l'analyse d'œuvres historiques, celles de Brodel, celles de Chaunu, auxquelles ont succédé depuis d'autres œuvres fondées sur d'autres manières de faire l'histoire. À mon avis, le fameux tournant critique de l'historiographie française, contemporain de la réflexion de Rancière, a très certainement fait évoluer les questions de poétique historique. Mais peu importe, au fond, que l'on suive ou pas Jacques Rancière sur toutes les étapes de son raisonnement. Il me semble que l'on doit retenir de sa réflexion deux enseignements sur lesquels je voudrais finir. Le premier, c'est que la libération qu'il préconise dans l'utilisation des temps auxquels on écrit l'histoire ne relève pas du tout d'une tentative pour tirer l'histoire vers la fiction. J'espère avoir rappelé avec assez de clarté que si pour Rancière, les historiens sont autorisés à utiliser tous les temps à leur disposition, ce n'est pas afin de donner libre cours à leur imagination, ce qui serait d'ailleurs une définition très pauvre de la fiction. Au contraire, si le mélange des temps correspond au brouillage de la frontière du récit et du discours, ce brouillage a accompagné la définition de l'histoire comme science, c'est-à-dire comme analyse de l'événement plutôt que comme récit de celui-ci. Mais il demeure essentiel de bien se convaincre que ce brouillage ne s'effectue pas n'importe comment. C'est dans le détail de chaque analyse, de chaque paragraphe, de chaque phrase, que l'historien doit réfléchir à la manière dont il veut délivrer le sens des événements, et donc à la manière dont il met en intrigue le récit et le discours, et donc à la manière dont il utilisera pour écrire l'histoire les différents temps à sa disposition. En cela, il me semble que Rancière rappelle l'historien à ses devoirs, qui sont de connaître le plus finement possible les pouvoirs de la littérature. Non pas pour apprendre à faire de belles phrases, et à bénéficier par exemple des prestiges narratifs du passé simple, comme dit Rancière, même si le souci de bien écrire est légitime lui aussi, mais pour apprendre à ne pas être la dupe de la fiction. Le second enseignement que l'on peut tirer de la lecture de Rancière, c'est que cet apprentissage doit nécessairement se faire sans maître. Paradoxalement, en effet, la seule leçon que les maîtres sont légitimes à dispenser est qu'il ne faut rien s'interdire, ni le mélange du présent et du passé, bien sûr, ni même l'usage du futur. J'ai conscience qu'il est bien regrettable, dans le cadre d'un atelier doctoral, de parvenir à cette conclusion qui invalide la présence même des maîtres dans cet atelier. Mais c'est ainsi. À l'historien qui commence à écrire et qui se demande à quel temps on écrit l'histoire, le maître ne peut que répondre « Tout est permis ». Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'enseigne la plus élémentaire lecture des meilleurs livres d'histoire. Tout est permis. Tous les temps peuvent être utilisés. Mais attention, ceci, seulement à la condition d'examiner le plus précisément possible, à chaque fois, les implications épistémologiques de chacun de ces choix. Et c'est comme ça que je peux revenir en conclusion à la petite affaire de la session 2011 de l'agrégation d'histoire par laquelle j'avais commencé cette conférence. Car on pourrait proposer du texte soumis aux étudiants cette année-là une analyse entièrement fondée sur les temps auxquels ce texte avait été écrit. On s'en souvient. Bien que rédigé en 1964 par Palais Montglorieux, le texte était présenté comme ayant été écrit par un témoin du Concile de Constance de 1415, lequel témoin aurait noté, au jour le jour, toutes ses observations. En reconnaissant qu'une erreur avait été commise, le rapport du jury admettait implicitement que dans sa forme, ce journal était une fiction, puisqu'un tel journal n'avait pas été tenu en 1415. Or, si on lit ce pseudo-journal, on s'aperçoit que son auteur a mélangé tous les temps, selon que le narrateur était censé raconter au présent les événements de la journée, ou au passé, les événements qui, situés plus loin dans le temps, permettaient de donner du sens à ceux de la journée. De ce point de vue, il convient de distinguer très soigneusement ce qui relève de la fiction, c'est-à-dire la forme du journal, qui est une pure invention de Palais Montglorieux, et ce qui relève de l'histoire, c'est-à-dire le texte lui-même, qui était non pas une fiction, mais bien un discours d'historien. À la lumière de sources du début du XVe siècle, Monseigneur Glorieux proposait en effet une analyse du Concile de Constance qui en faisait le précédent fameux du Concile de Vatican II. Et si Glorieux mélangeait les temps du présent et ceux du passé, c'était dans un but bien précis, délivrer en 1964 le sens du Concile de 1415. De ce point de vue, l'usage du mode conditionnel pour présenter ce texte, qui, je le rappelle, aurait pu être écrit par Jacques de Cerisy, est doublement fautif. Il est fautif du point de vue politique, au sens de Rancière. Lorsque les auteurs du rapport affirment que Jacques de Cerisy aurait pu tenir le journal rédigé en réalité par Palais Montglorieux, cela ne signifie en effet absolument pas que Glorieux a délivré une parole muette au XVe siècle, celle d'un peuple souffrant que, pour autant que je sache, Jacques de Cerisy n'incarnait pas du tout. Mais l'usage du conditionnel est fautif surtout du point de vue scientifique. Le texte n'aurait pas pu être écrit par Jacques de Cerisy parce que seul un historien pouvait délivrer ainsi, par la forme qu'il a donnée au jeu du passé et du présent, le sens des événements. Ce qui fait d'ailleurs que les candidats au concours ont eu tant de mal à commenter un texte qui contenait déjà, d'une certaine façon, son propre commentaire. Ainsi, le petit accident de l'agrégation d'histoire est-il aussi instructif en ce qui concerne l'usage des temps auxquels on écrit l'histoire. Car pas plus que les temps du présent, du passé et du futur, le mode conditionnel n'est interdit dans l'écriture de l'histoire. Mais comme pour le présent, le passé et le futur, l'historien qui l'emploie doit connaître le plus exactement possible, à chaque fois, toutes les implications épistémologiques du choix qu'il fait. Je vous remercie.